Les marchandes de sable, il était une fée. Ondine de Claudine Glo et Armel Gaulm, épisode 5. Dans cette nuit de terreur, un chant s'élève soudain. Une voix de femme limpide et cristalline, qui malgré sa douceur, couvre le grondement du tonnerre. La monstrueuse vague hésite, les nuages noirs s'ouvrent sur un ciel bleu sombre, illuminé par la lune. Hudebrand cesse de trembler. En haut du ravin se tient Ondine sur sa jument blanche. Les mains tendues vers la vallée, elle chante, et dans sa voix passent la colère et le courage, l'indignation et le commandement, la tendresse et le réconfort. La vague se balance d'avant en arrière. La jeune femme dirige sa jument vers l'abrupte paroi. Arrivée à la hauteur des jeunes gens, elle ordonne à Hildebrand de hisser devant elle Bertalda, incapable de bouger, puis de sauter en croupe. Elle chuchote ensuite quelques mots à l'oreille de sa monture, qui s'envole jusqu'au sommet du mur rocher. Dans la vallée où la vague vient d'éclater, noyant le chemin, l'étalon d'Hildebrand se débat puis disparaît dans l'écume. Ondine a retrouvé l'amour de son mari. Bertalda, forte éprouvée par son aventure dans la vallée des ombres, a adopté une conduite plus modeste et l'hiver se passe dans le plus grand calme. Au printemps, Hildebrand invite son épouse à découvrir la source du Danube. Le long de la route, il lui décrit la puissance que va acquérir le mince ruisseau, les villes dorées qu'il va traverser, les vignobles et les champs de blé sur ses rives, les grands navires qui le parcourent. Enivrée par tant de belles images, Ondine supplie son mari de l'emmener naviguer sur le Danube. Hildebrand serait prêt à lui accorder ce plaisir, mais la pensée de Kelborn, tout puissant sur le fleuve, le hante. Sentant sa crainte, Ondine s'empresse de le rassurer. « Tu es redevenu si aimant que mon oncle ne trouvera rien à redire. Faisons cette promenade ensemble et montrons-lui que notre amour a vaincu tous les obstacles. » Emportée par sa joie, elle propose que Bertalda les accompagne. Un navire, à bord duquel tout a été prévu pour leur confort, les emporte tous trois sur les eaux. Les escales se déroulent comme autant de fêtes, au cours desquelles ils goûtent des vins capiteux et des plats délicatement épicés et dansent sous les tonnelles au son des violons de cigane. Chaque fois qu'un affluent rejoint le fleuve, Ondine passe des heures sur le pont, chantant à voix basse, les yeux plongés dans le sillage du navire. Le neuvième jour, tout change. Des nuages voilent le soleil, l'air devient froid. Des vagues sournoises se mettent à secouer l'embarcation. Les marins n'y comprennent rien. Ni le vent ni le courant n'auraient dû produire de tels phénomènes. Peu après, malgré la garde vigilante que monte Ondine, surgissent des apparitions, visages grimaçants sous les eaux, ombres menaçantes dressées à la proue du bateau, pleurs sinistres trouant la nuit. Tout cela ne dure jamais longtemps, mais suffit à faire perdre à l'équipage et aux passagers leur belle humeur. Tous regardent la jeune femme avec méfiance. Hildebrand, qui regrette une fois encore d'avoir uni sa vie à celle d'une créature des eaux, retourne vers Bertalda. Il recommence à traiter Ondine avec sévérité, lui ordonnant de rompre définitivement avec sa famille et de calmer son oncle. Ondine fait de son mieux pour tromper Kelborn. Quand Hildebrand élève la voix, elle pose la main sur les lèvres du jeune homme et s'efforce de rire comme s'il avait voulu plaisanter. Malgré la tristesse qui lui broie le cœur, elle se penche sur les eaux pour chanter de joyeuses chansons. Et lorsque la surface du fleuve vient à blanchir, elle remercie très haut Bertalda de son amitié. Un matin où, fatiguée de tant d'efforts, Ondine dort sous une toile tendue en travers du pont. Hildebrand et les marins voient se dresser hors des eaux le buste d'un géant à la crinière d'algues bleutées qui rit cruellement en les regardant. Le bateau prend de la vitesse, mais l'esprit, accompagné d'une foule de créatures difformes, mi-hommes, mi-poissons, ne se laisse pas distancer. Les hurlements des marins réveillent Ondine qui parvient à repousser les horribles spectres. Le calme revenu, Elle ordonne aux marins de regagner en hâte la rive afin d'y passer la nuit. Une fois à terre, elle suggère à son mari de rentrer au château par la route. Hildebrand, excédé, lui répond qu'il ne fléchira pas devant les monstres de sa famille et Odin n'a que le temps de lui fermer la bouche d'un baiser. Le lendemain, tous rembarquent sur les eaux lisses, moirés par le soleil. Hildebrand, honteux de son moment de colère, plaisante avec les deux jeunes femmes. Accoudé au bastingage, Bertalda tient à la main la longue et épaisse chaîne d'or que le chevalier lui a offerte dans la petite ville où ils ont dormi. Ondine n'a rien trouvé à son goût chez cette orfèvre, elle qui affectionne tant les parures de perles, la douceur des aigues marines et les diamants taillés en gouttes d'eau. La duchesse fait jouer le soleil sur son collier quand une main couverte d'écailles jaillit de l'eau et de ses doigts griffus s'empare de la chaîne avant de disparaître dans une vague. Hildebrand bondit, l'épée à la main, hurlant sa colère face au Danube. Il insulte tous les esprits des eaux, leur ordonnant de s'en aller à jamais de sa vie. Odin essaie de consoler Bertalda qui n'en finit pas de pousser des soupirs à fendre l'âme. Certaine de la culpabilité de Kelborn, elle plonge la main dans l'eau en chantonnant une de ses mystérieuses mélodies. Un instant plus tard, elle brandit en souriant de ses mains ruisselantes un long collier de corail bilan et rose brille entre ses doigts. Pour toi, ma chère Bertalda, et qu'il te console de ce que le fleuve t'a volé. Bertalda tend la main vers la parure, mais Hildebrand se précipite. Arrachant le collier des mains de son épouse, il le rejette dans le fleuve, puis saisit Ondine par le bras qu'il serre brutalement. Je t'avais demandé de te tenir à l'écart de ta maudite famille, mais tu n'as pas pu t'y résoudre. Tu leur appartiens encore, sorcière, et tu seras toujours des leurs. Je ne veux plus te voir. Retourne dans les eaux dont tu n'aurais jamais dû sortir. Rejoins les ondins, les nyx et les sirènes. Je te hais. Je voudrais ne t'avoir jamais aimé. Blême, immobile, Ondine lui fait face. Tais-toi par pitié. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Oui, je vais te quitter. Moi qui t'aime tant. Je n'ai pas le choix. Ils viennent me chercher. Surtout ne m'oublie pas. Et reste-moi fidèle pour que je puisse encore veiller sur toi. Alors Ondine se tait et disparaît sans que l'on puisse dire si elle a plongé, glissé dans les eaux ou si elle s'est évaporée comme une rosée fragile. Quelques-uns des marins entendent ses sanglots et sa voix implorant Hildebrand de lui rester fidèle, puis un silence mortel descend sur le Danube. Longtemps, Hildebrand pleura Ondine. Il ne cessait de revoir l'amère douleur de son dernier regard. Rêvait de leur rencontre sur l'île, l'entendait chanter pour lui. Chaque soir, il s'endormait en priant pour rester à jamais dans les songes où Ondine était à ses côtés. Bertalda, restée à Rijkstetten, demeurait terrassée par le chagrin et les remords. Durant 2 ans, le chevalier et la duchesse vécurent côte à côte dans le souvenir de celle qu'ils n'avaient pas su aimer. Puis les rêves se firent plus rares. Hildebrand ne se réveilla plus en larmes, Bertalda reprit goût à la vie et tous deux se mirent à parler de mariage. À la fin du printemps, Hildebrand, un genou en terre comme il convient, passa au doigt de Bertalda un anneau de fiançailles. Puis, il envoya chercher le père Elman dans son ermitage de la forêt car il souhaitait que le mariage fût célébré au premier jour de l'été. Dès l'arrivée du messager de Rijkstetten, le vieux prêtre se mit à rêver chaque nuit d'Ondine. En pleurs, elle le suppliait d'empêcher le remariage d'Hildebrand. Je vis encore, mon père, lui répétait-elle. Si cette union est célébrée, je ne pourrai plus protéger Hildebrand et nous le perdrons. Mais le religieux eut beau rappeler au chevalier et à la duchesse que la mort d'Ondine n'était pas certaine, car son corps n'avait pas été retrouvé, rien ne put convaincre les fiancés de renoncer à leur projet. Une nuit, Hildebrand fit un étrange rêve. Un vol de cygnes l'emmenait jusqu'à la mer. Il était assis sur le dos du plus grand d'entre eux et le soleil frappait les flots avec tant d'intensité qu'il devenait aussi transparent que du cristal. Sous les eaux, Hildebrand put ainsi voir Ondine, vêtue de voiles couleur d'algue, les cheveux tressés de minuscules coquillages aux reflets roses. Elle se disputait avec Kelborn et par l'un de ces miracles fréquents dans les rêves, le chevalier entendit leur conversation. « Alors, ma nièce, nous voilà bien oubliés. En épousant Hildebrand, vous avez pris envers nous l'engagement qu'il vous serait fidèle. Si vous le trahissez, il devait mourir. Or, votre chevalier s'apprête à prendre pour femme la noble Bertalda et vous allez devoir le punir de son crime. Il ne m'est pas infidèle puisqu'il me croit morte. Vous êtes vivante et toujours soumise à nos lois. Vous irez demain soir lui apporter la mort en versant sur lui vos larmes d'épouse rejetée, abandonnée et trahie. La première larme brisera son cœur comme il a brisé le vôtre. La deuxième lui fera perdre l'esprit. La troisième prendra son souffle. La quatrième fermera ses yeux et toutes les autres glaceront son corps. Je ne peux aller jusqu'à lui. Après ma mort, il a juré de ne plus s'approcher du Danube et j'ai scellé le puits de Rigstetten par des formules magiques qui nous en interdisent le passage. Le temps, ma nièce, le temps lui fera oublier son serment. Un jour, on retirera la pierre du puits. Il n'oubliera rien, mon oncle, car il nous écoute du ciel où mes fidèles amis les cygnes l'ont conduit à ma demande. À ces mots, Kelborn hurla de rage si fort que la mer se couvrit de vagues blanches. Les cygnes repartirent vers les montagnes et Hildebrand se réveilla dans son lit. Dans la journée, le père Hellman, qui avait revu Ondine en rêve, vint encore le supplier de changer d'avis. Hildebrand lui répondit qu'un Rigstetten ne s'effarouchait pas d'un songe et qu'il ne pouvait faire à Bertalda l'affront d'annuler leur mariage. Dès le lendemain matin, les invités affluèrent au château. Les tables croulaient sous les mets les plus coûteux, le vin coulait à flot, des musiciens jouaient dans toutes les cours. La mariée traversa la nef dans le fracas des orgues et des trompettes et le lourd parfum des lys et des roses. Après la cérémonie, on dansa au château et dans tous les villages environnants, mais c'est en vain que l'on aurait cherché une once de gaieté dans tant de fastes. Les invités devinèrent-ils que le marié ne pouvait oublier une certaine nuit étoilée, une jeune femme couronnée de perles et de vieux pêcheurs au bord d'un lac? Ceux qui avaient connu Rigstetten du temps de la première épouse du chevalier s'attendaient à la voir surgir au détour d'un couloir. Les serviteurs, empressés comme ils se devaient de l'être autour de Bertalda, avaient le sentiment de trahir leur ancienne dame et de l'entendre pleurer. La soirée se termina par l'embrasement d'un bûcher, puis les invités regagnèrent qui sa chambre, qui son carrosse. Bertalda se retira dans ses appartements et découvrit avec dépit que la fatigue de la journée lui avait fait le teint jaune et les yeux creux. Sa camériste lui conseilla de rincer son visage avec une infusion d'herbe dont elle avait le secret. « L'eau du puits augmenterait l'effet bienfaisant des plantes » ajouta-t-elle. Malgré l'heure tardive, Bertalda fit appeler des domestiques qui jetèrent à bas la grande dalle qu'avait fait poser Ondine. Hildebrand venait de se changer lorsqu'il entendit frapper à la porte de sa chambre. Il lui sembla alors voir Ondine en franchir le seuil. Quand il recouvrit ses esprits, une forme voilée de blanc se tenait en face de lui dans la lueur des flambeaux. « Le puits a été rouvert cette nuit, » murmura le pâle fantôme. À peine étonné, Hildebrand reconnut Ondine. « Le puits a été rouvert, » répéta-t-elle, « et maintenant tu dois mourir. » Une grande peur envahit Hildebrand, non pas à l'idée de la mort qu'il attendait, mais à celle du spectre décharné qui se cachait sous le voile blanc. Ondine le comprit et ôta le tissu qui couvrait sa tête. Elle était aussi radieusement belle qu'en ce soir de tempête où Hildebrand avait pour la première fois posé les yeux sur elle. Les deux amoureux se sourirent comme s'ils se découvraient, puis Hildebrand enlaça Ondine et l'attira sur leur lit. Elle l'embrassa longuement et, penchée sur celui qui ne cessait de lui sourire, laissa couler ses larmes sur le visage de son bien-aimé. Le lendemain, le père Hellman célébra les funérailles du seigneur Hildebrand de Rigstetten, mort le soir de ses noces. Bertalda conduisit le deuil de façon exemplaire. Dans la chapelle, les crêpes noires remplaçaient les roses et les lys. À la fin des funérailles, la jeune veuve prit la tête du cortège qui accompagnait le chevalier à sa dernière demeure. Dans la cour, une femme entièrement voilée de blanc qui attendait près du puits vint se placer à la droite de Bertalda. Tous ceux qui suivirent reculèrent alors d'un pas. Après que le cercueil du chevalier fut descendu dans la tombe et que les fossoyeurs eurent fini de le recouvrir de terre, les deux silhouettes voilées, l'une de blanc, l'autre de noir, s'agenouillèrent. Profondément recueillies, elles prièrent côte à côte, puis Bertalda se releva et s'en retourna au château. Alors là où s'était tenue la blanche apparition, une source apparut et ses eaux argentées encerclèrent la tombe d'Hildebrand. Dans leur murmure, on entendait tour à tour des rires et des sanglots.